Bonjour à toutes et à tous, vous êtes à l'écoute de Faites valser vos idées, l'émission qui secoue les ménages sans se prendre la tête. On commence de suite avec Max Soubidou.
Ouais. Bon, si j'avais su un jour devoir faire une intro radio sur les cocottes.
Coucou !
Ah ! Jean-Pierre, tu nous fais un topo historique sur les poupoules, s'il te plaît ?
Alors, s'il est une période dans l'histoire qui nous fascine tous, c'est bien sûr l'origine de la poule ou de l'œuf. Le premier tyrannopoule recensé à nos jours date du Crétacé ou du Gallinacé. L'âge est encore incertain, mais des dents de poulosaurus ont bien été retrouvées en France, dans les Cévennes, près de la zone Pastis 51, où ont été vus de nombreux objets volants non identifiés en forme d'œuf de poupoule.
Chat ! Si j'avais su !
Ah,
je voudrais pas en faire tout un...
plat.
Éviter les jeux de mots trop faciles, comment dire.
Les commentaires de basse-cour.
Bref, on me fait passer du coq à l'âne.
Non mais je vois pas ce que Alan vient foutre ici, quoi.
Mais à Radio Escapade,
on veille au grain.
On vous envoie des morceaux de ouf, trop de chicken. Et des interviews cocottes dans la minute.
Alors, justement, on fait des micro-trottoirs régulièrement. Et aujourd'hui, on avait envie de jouer. Vous vous rappelez ?
Moi, j'étais pas du tout d'accord.
Quand vous étiez petit,
c'est pas mon truc.
La cocotte en papier, ouais. Ça vous rappelle les souvenirs ?
Ouais.
Ouais, ça vous tente ?
Allez.
Ouais.
Ça dure pas trop longtemps ?
Non, bah non, faut faire choisir un chiffre et puis
okay.
On va l'entendre.
Bah, j'espère.
Non, mais. Je
vais venir là ? Je vais mettre la
radio Escapade, c'est quoi ? C'est une radio locale ?
Ouais,
c'est, ouais, c'est associatif.
Ah, d'accord, ok. D'accord, ok.
Dis un chiffre du coup.
4.
Choisis une couleur.
Le vert ?
Celui-là ?
Ouais.
La question, ça va être, est-ce que t'as déjà fait un vœu, gna 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 gna, et tout. Elle a fait toutes les mêmes questions, c'est une tricheuse. On va voir.
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?
Ah non.
Mais est-ce que je suis pas déjà grande ?
Non.
Non ? J'ai 29 ans, hein, quand même.
Mais c'est de la cocotte en papier.
Qu'est-ce que tu veux faire
quand tu seras grande ?
C'est pas quelqu'un qui a une...
Qu'est-ce que tu voulais faire quand t'étais petite ?
Qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras grande ?
Je veux... moi j'aimerais bien faire des podcasts, justement. J'en fais déjà un peu. Et à chaque fois, il y a plein de sujets qui émergent dans ma tête. Il y a des sujets qui me donnent envie de raconter la vie des gens ou la vie de ce qui se passe dans des structures, des organisations. Et voilà, j'aime bien interviewer les gens aussi, aller leur poser des questions sur leur vie.
Et c'est quoi les podcasts ?
Les podcasts, faut que j'explique le concept.
Non, que tu fasses la pub.
Que je fasse la pub.
Pour que les gens puissent aller voir. Allez voir.
Les podcasts, c'est là ce que je fais, ça s'appelle La Traverse. C'est sur la transition écologique dans les campagnes. Et donc, on va à la rencontre de ceux qui font bouger les petites communes, dynamise les territoires ruraux et voilà, on leur demande ce qu'ils font et on...
C'est un sujet super intéressant, hein. C'est un sujet. Ça doit être difficile parce que c'est interdit la précarité. Je veux dire, quelqu'un qui achète une terre agricole en France et qui pose sa petite coulotte, etc., ou sa yourte ou autre chose, il n'a pas le droit. Donc
ouais.
C'est la tolérance d'un maire, d'une commune, et etc.
Ouais.
Ils peuvent se faire virer n'importe quand. Il n'y a pas de droit là-dessus, en fait, c'est interdit. Donc on ne peut pas vraiment lutter contre l'agrochimie et toutes les grosses structures.
Mais après, il y a quand même plein d'alternatives qui émergent aujourd'hui et qui trouvent leur voie de façon un peu déviée, même si effectivement il y a beaucoup d'obstacles. Et moi, je trouve que c'est intéressant justement d'aller voir comment les gens ils s'arrangent avec les règles, avec les choses pour faire ce qu'ils veulent quand même sur ces territoires-là. Et il y a plein d'initiatives qui émergent qui sont super intéressantes.
Et qui pourront peut-être faire en sorte qu'on change les lois un jour.
Et il y a des maires qui sont par ailleurs hyper proactifs et qui favorisent ce genre d'initiative-là. C'est top.
Prochain sujet d'émission.
L'agriculture.
L'agriculture, c'est vaste.
Ton prénom, du coup.
Solène.
Merci beaucoup, Solène.
De rien.
Merci, Solène.
Bonne journée.
Salut. Bonne journée à vous.
Merci.
Mamie allemande, elle parle bien français.
D'accord.
Eh ben, c'est pas grave, elle peut parler allemand.
Ou anglais.
Okay. Une interview, alors pourquoi ? Alors moi c'est Mélanie.
Et Max.
Voilà. Et on fait le micro-trottoir pour Radio Escapade, une radio locale.
D'accord.
Et aujourd'hui, et aujourd'hui, on a envie de jouer. Tu te rappelles?
Ouais.
Ça te rappelle des souvenirs?
Ouais.
T'as envie de jouer avec moi?
Allez, vas-y. On va jouer.
Il faut que tu me dises un chiffre.
4.
Et que tu choisisses une couleur.
Le bleu, là.
Quel est ton jeu préféré?
Mon jeu préféré? C'est quoi mon jeu préféré?
Le Monopoly.
Ah ben ah oui, alors
non, mais tous les jeux, non, tout est ouvert. C'est le jeu dans le sens large du terme.
Les petits chevaux. Non, plus large
que
ça. Tu laisses
pas influencer par les...
Je cherche aussi, moi, je me prends au jeu, quoi. Alors, je peux pas jouer avec vous.
Si je passe sur un jeu de société,
on peut jamais jouer avec les filles, hein. Jouer à leur truc entre elles, là, et voilà.
C'est peut-être le Monopoly, parce que je dis souvent que pour moi, la vie, c'est un Monopoly. C'est pour ça que je dirais ça. Mais sinon, en termes de jeu...
Tout finit dans la case prison ou rue de la paix?
Non, Champs-Élysées.
Ah ouais. Ah bah oui, bien sûr, le spectacle.
Ça veut dire que j'ai gagné. Ah. oui, voilà, ça, je dirais... Ah si, j'aime bien les genres de jeux où on doit deviner qui est l'autre, etc. Voilà.
Ok,
voilà.
Merci beaucoup.
Les deux ?
Oui.
Ce soir et de
C'était Qu'est-ce qu'on mange ce soir d'OSF que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube on s'en fout 34. Et c'est le moment pour la chronique de Jean-Michel. Vas-y ma poule.
Salut les louloutes, ainsi qu'à tout le monde, ça va ou quoi?
Ouais!
Ouais, j'ai rien entendu! Ouais, c'est mieux, ça, c'est mieux. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler de Rammstein, et puis plus tard, on ira dans la Matrice avec le film Matrix. Rammstein est un groupe de New Deutsche Wartes, ou alors la nouvelle dureté allemande. Non, c'est pas ce que vous pensez. On peut dire aussi Dance Metal, ou Dance Metal, bref, du gros son dans ta face. Originaire d'Allemagne de l'Est, créé en 1994 par Richard Sven Krups, guitare solo, chant et lance-flamme, Paul H. Lander, guitare rythmique et lance-flamme, Olivier Olli Riedel, bassiste et lance-flamme, Christopher Dumschneider, batteur, Till Lindemann, auteur-compositeur, chant et lance-flamme, et le docteur Christian Fleck-Lorenz, le mieux, le meilleur, clavier synthétiseur, bah lui il est carrément cuillon lance-flamme quoi. Ils sont tous issus de différents groupes rock, punk, hard rock, contestataires du régime en place à l'époque en RDA, République démocratique d'Allemagne.
Et oui les amis, l'Allemagne de l'Est était communiste depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Autant dire qu'il ne fallait pas trop ouvrir sa bouche et encore moins revendiquer avec des sons considérés comme rétrogrades et capitalistes. La Stasi, la police politique, veillait à ce que aucune représentation de l'Ouest capitaliste ne vienne polluer leur paradis communiste. Puis en 1989, avec la chute du mur de Berlin, c'est la réunification de l'Allemagne.
Merci JP pour cette précision historique. Donc après la chute du mur de Berlin, la capitale allemande devient bouillonne littéralement sur les plans artistiques et musicaux. Rammstein se produit en concert dans le monde entier depuis 1994 jusqu'à aujourd'hui. Se produit en Allemagne, en France, en Suisse, en Hongrie, en Angleterre, en Chine, aux États-Unis, en Amérique latine, etc., etc. Ils ont plusieurs centaines de concerts à leur actif, ce sont des bêtes de scène quoi. Avec du gros son, des scénographies gigantesques, des flammes de partout, des décors déments. Leur dernière tournée Europe Stadium Tour nécessite 14 semi-remorques de matos pour des spectacles époustouflants, fascinants et hallucinants. Sur 30 ans de carrière, le groupe a produit 8 albums, a reçu des dizaines de prix musicaux. Après quelques petits scandales, enfin, et procès considérés comme des nazis accusés d'abus psychologiques et sexuels sur des fans, le groupe réfute ces accusations et s'en sort au tribunal par manque de preuves tangibles.
We're all living in America. America is wonderful. We're all living. Oh, living in America, America is wunderbar.
Voilà, c'était America de Rammstein sur l'album Rise the Rise de 2004. C'est à Mélanie.
Oui, oui, c'est à moi. Bonjour tout le monde. Salut, salut, salut.
Salut Mélanie.
Comment allez-vous?
Wunderbar.
Bonjour Mélanie.
Oh là là. Eh oui, oui, l'œuf ou la poule, l'éternelle question que tout le monde se pose. Du coup, il m'en vient une autre, la cocotte ou la question? Une chose est sûre, comme l'a dit Lydia, on veille au grain. Et non seulement on veille au grain, mais on est toujours là pour aller gratter quelques rebords de trottoir pour savoir quelle réponse vous allez pondre à nos petites questions. Vous voulez jouer? Allez, dites un chiffre.
Un peu fort, il y a la musique à côté là.
Allez, on s'assoit.
Asseyez-vous, j'ai un vol dans 43 minutes exactement.
Vous avez d'accord, un vol dans 43 minutes.
Tu vas arriver pour me coacher.
Tu pars en Russie?
Déplacement.
D'accord.
Non, là c'est l'Azerbaïdjan.
Ah d'accord, parce que là en fait on est en train d'interviewer un espion russe en fait qui s'infiltre en France. Dans les associations du genre pour les migrants, etc.
Me dites pas que c'est Dimitri.
Pour détruire la culture
vidéo. C'est Dimitri. C'est Sergueï ou Dimitri?
C'est Sergueï.
C'est Sergueï.
Sergueï, ça dépend des fois. T'as plein de papiers, de toute façon, tu t'en fous, t'auras qu'à acheter celui-là, tu vois, c'est pas un problème et tout.
Oui, bah oui, oui. On a une vie dangereuse. Et plus l'époque se précise, plus les politiques s'engagent. Et moins les gens tombent d'accord entre eux, c'est très préoccupant.
Bon, Sergueï, ouais,
je ne prendrai pas parti plus que ça, par
Sergueï,
contre. Hein,
Sergueï. Sergueï, c'est ça. Du coup, dans ce contexte-là, est-ce que t'aimes jouer?
D'ailleurs, à quoi Sergueï?
Ah non, il n'est pas joueur du tout, ça sent.
Ça sent. Ouais, ah, d'accord, ouais, à quoi Sergueï, d'ailleurs? Ouais, franchement, on peut se demander, quoi.
Personne ne dit rien.
Qu'est-ce qu'il fout, ce mec, quoi?
On en parle,
mais on ne sait même pas à quoi il sert.
Mais on ne sait pas plus, non. C'est le fantôme actuel.
Ok.
Non, franchement, je...
Donc, gay, dis un chiffre.
Et au niveau de cette interview, alors, c'est...
Ben, justement,
c'est ça, l'interview.
On va jouer.
C'est un jeu.
D'accord.
Donne-moi un chiffre. On va jouer à la cocotte en papier.
007.
5.
Une couleur.
Le vert.
Oh, c'est qu'est-ce le vert, que tu veux faire quand tu seras grand?
Dans cette vie-là, je sais pas.
Je vais détruire le monde, comme Minus.
Je vais tous les anéantir.
Comme Cortex, ouais. Ah, je sais plus lequel c'est. Ouais.
Qu'est-ce que je vais faire quand je serai grand? Vivre en paix avec les autres.
Ouais. C'est pas avec ça qu'on va faire des films, qu'on va s'amuser et tout ça.
Ah, oui,
le
oui.
principe de s'amuser, c'est qu'il y ait des accidents,
ah, oui,
un petit peu de violence. Bah oui, regarde, quand on fait un film, quand on raconte une histoire, c'est pas la paix. Quand il y a la paix, on s'emmerde. Mais il n'y a rien qui se passe.
Ça, c'est ce que tu crois, ça.
Ouais.
Ça, c'est ce que tu crois. Ça, c'est les scénarios, c'est le mode de pensée.
Non, mais ça, c'est Max.
C'est le mode de pensée. Il faut expérimenter. Il faut proposer l'expérience de trouver la paix. Et c'est pas à la portée de tout le monde. Et chacun... Si tu poses les choses, là les gens sont en vacances en fait. Avant les vacances, c'est le monde du travail. Et il y a une énergie complètement différente. Et de voir que en fait, en vacances, les gens sont détendus et que ça change. Et que les gens sont plus apprêtés avec eux-mêmes, plus disponibles. Et qu'on peut trouver vraiment plein de trucs à faire. Il suffit d'aller voir les gens pour être avec eux, pour leur proposer n'importe quoi. Et c'est ça, c'est... Quand il y a des choses pas dites, c'est juste qu'il faut aller voir les autres, quoi, je pense. Moi, je suis pas un exemple, hein, mais je suis pas forcément une référence pour aller voir les autres parce que je suis quelqu'un de très timide, très introverti. Mais, avec la musique, le chant...
Attends, faut parler fort, faut que le micro soit là.
Salut, Laurie. Est-ce que tu veux jouer avec moi? Oui. Ouais. Dis-moi un chiffre. 3. Choisis une couleur. Bleu. Ah, alors il est.
Je peux rien dire, hein. c'est un jeu pour les enfants, c'est... je dois supporter
non,
ça.
Non mais Hilo et moi, on va jouer.
Ça me rappelle à l'école,
enfants,
tu sais, la corde à sauter, tous ces trucs.
Ben
il y a que les filles qui jouent entre elles, t'arrives, tu peux pas jouer
avec elles. De toute façon, avec Hilo, on va jouer à la marelle
après. Là, c'est pareil, je peux même pas dire que c'est un jeu pour les filles. Et...
Quel est le rêve qui t'anime en ce moment, Hilo?
Le rêve qui m'anime?
En ce moment, est-ce que t'as un rêve qui t'anime?
Acheter un cubi de rosé.
Non mais on te demande pas à toi, Jean-Pierre, on demande... Mais c'est fou, ça.
Avoir plein de chats autour de moi.
Avoir quoi?
Oui, avoir
plein de chats, ouais. Plein de chats autour de toi.
Ouais.
Ok.
Avec une maison là.
Ouais.
La maison des chats.
La maison
oui,
des chats.
Oui, un peu comme, comme il s'appelle là.
Il y a un dessin animé.
Dutron.
Oui, Dutron, il a plein de chats autour
oui,
de lui.
Oui.
Ah, mais il habite en Corse. Hein.
Belle maison. Jean-Pierre, c'est ce qu'il te reste à faire. Acheter une maison en Corse avec plein de chats.
D'accord.
Bon courage, Jean-Pierre.
Il va enfin avoir des papilles de
non, mais c'est dans la garrigue. Pas besoin de litière. Ok, merci, Loli.
De rien.
Shining bright above you, night breezes seem to whisper, I love you. Birds singing in the sycamore tree, dream a little dream of me. Say nighty night and kiss me, just hold me tight and tell me miss me while I'm alone and blue as can be. Dream a little dream of me.
C'était Dream a Little Dream de Mamas and Papas. Et maintenant, à toi Jean-Pierre, vas-y mon poulet.
Merci ma poulette Mélanie. Dans les années 70, au sein des montagnes polonaises est évoqué, après un silence d'une trentaine d'années, le cas d'un mystérieux train disparu depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Ce train, si toutefois il existe, serait rempli de matières précieuses, d'or et d'argent, de bijoux divers et d'œuvres d'art. Des richesses que les nazis ont volées dans tous les territoires qu'ils ont occupés et qu'ils auraient amassées sous ce fameux, dans ce fameux train introuvable. Et ce n'était pas la seule fois, car les nazis ont volé beaucoup d'objets précieux tout au long de la guerre, qu'ils ont entreposés un peu partout dans des endroits tenus secrets, comme des caves et sous-sols de bâtiments ou encore dans des réseaux de tunnels creusés dans les montagnes de pays occupés. C'est en janvier 1945 que le train aurait été vu pour la dernière fois à Waldenburg, une petite ville de Pologne, proche de la frontière allemande. Les nazis accumulent 300 tonnes de richesses diverses à l'intérieur du train qui s'apprête à partir pour Berlin, une destination qu'il n'atteindra jamais, car nous sommes à la fin de la guerre et l'énorme armée soviétique s'avance vers Berlin. Cette avancée contraint les nazis à changer leur plan, faute de temps. C'est là qu'ils vont cacher le train quelque part dans la chaîne de montagnes polonaise, avant de tuer tous les témoins de la scène. Tous les témoins ? Non. Lors de l'arrivée du train, un ouvrier polonais, travaillant sur les chemins de fer, aurait vu l'endroit où le train aurait été caché. Il gardera le secret pendant environ 25 ans, traumatisé par la disparition de sa famille, témoin elle aussi, et donc assassiné par les nazis. Bien plus tard, sur son lit de mort, il va se confier à un Allemand et lui révéler l'histoire du train, qui lui-même se confiera à un mineur polonais nommé Słowikowski. C'est par son intermédiaire que l'histoire du train disparu refait surface. Cela dit, Słowikowski donne des éléments qui ne sont pas toujours les mêmes, et ses explications sont fumeuses, à tel point qu'on ne sait pas ce qu'il faut croire. On ne sait même pas si cet Allemand nommé Schulz a vraiment existé. Peut-être même que Słowikowski et l'ouvrier polonais ne sont qu'une seule et même personne. Depuis, de nombreux habitants de cette région de Pologne se souviennent du train ou d'en avoir entendu parler, suscitant des carrières de chasseurs de trésors. Ainsi qu'une attraction touristique nouvelle. Słowikowski n'a fourni ni preuve ni témoignage direct. Le train disparu reste un mystère. Il ne sera pas retrouvé, même avec son aide. Les autorités polonaises essaieront aussi sans succès. Cependant, en août 2015, un Allemand et un Polonais annoncent dans une conférence de presse avoir peut-être découvert l'endroit où se cacherait le train grâce à un scanner de sol. Sur une image, on distingue nettement une forme droite d'environ 100 mètres, 150 mètres de long. S'agit-il du train disparu ? On n'est pas près de le savoir car ces deux personnages ont refusé de donner l'endroit exact où cette forme droite se situe. Mais à quoi tout cela peut bien-il servir ? Entre ceux qui pensent que le train disparu n'a jamais existé et qu'il s'agit là d'une légende urbaine bonne pour le tourisme et pour faire parler de soi, et ceux qui pensent qu'il a existé mais qu'il a été vidé et que son chargement a été dispersé, vendu, fondu, voire même disparu en mer, y voir clair dans cette histoire relève de la magie. Et les Polonais dans tout ça ? Une rumeur court affirmant que les autorités polonaises auraient découvert le train après la guerre et l'auraient caché. Si je force un peu mes talents de complotiste, cela pourrait expliquer pourquoi la Pologne, avec les moyens d'un État, n'a rien trouvé du tout. Même pas le moindre élément confirmant ou pas l'existence du train. Une autre hypothèse dit que les Soviétiques ont mis la main sur le train et l'ont renvoyé en URSS. Bref, c'est pas demain la veille que le mystère sera percé. Et enfin, pour conclure cette chronique, il existe encore une autre théorie sur laquelle on va s'attarder. En 1716, une alliance se noue entre la Prusse et la Russie. Et quoi de mieux pour conclure un accord qu'un petit cadeau ? C'est ce que fera le roi de Prusse qui offrira une salle de réception d'une cinquantaine de mètres carrés à l'empereur de Russie. La salle nommée la chambre d'ambre est incrustée d'or, parcourue de miroirs avec de nombreuses sculptures en marbre. Mais ce qui caractérise cette chambre d'ambre, c'est qu'elle est entièrement démontable. Elle est en kit. Elle sera installée dans un palais près de Saint-Pétersbourg, mais lors de l'arrivée des nazis en 1941, ces derniers la démontent et l'envoient en Allemagne dans un château. 4 ans plus tard, c'est les Soviétiques qui arrivent en Allemagne. La chambre d'ambre est alors rapidement démontée pour être mise à l'abri. Et là, pouf, disparue la chambre. Ces éléments ont-ils été détruits, disparus en mer, entreposés quelque part ? On ne sait pas, mais parmi les hypothèses, une parle d'une évacuation par voie ferrée. Le rapprochement est vite fait avec le train disparu dans les montagnes. L'ambre est d'une couleur jaune qui aurait pu faire croire à de l'or, trompant peut-être les rares témoins de ce train fantôme. Et maintenant, on va passer à Jean-Michel. Jean-Michel, oh !
Il a disparu.
Oh, Mélanie, tu enchaînes ?
Elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, elle est là,
Oh là là. Bon, ok, on va passer à Lydia.
Elle n'est pas là. Elle a disparu tout au fond de sa rue.
Bon, allez, Max. Max,
il est à la piscine. Il prend le train.
C'était Rita Mitsuko avec Le Petit Train, et tout de suite c'est à Lana.
Nous faisons toujours valser vos idées sur Radio Escapade. 104.1 à Saint-Hippolyte-du-Fort, 102.0 à La Salle, 103.3 à Ganges-le-Vigan et sur Internet, dans le monde entier et tout l'univers connu, www.radioescapade.org. Et maintenant, nous retrouvons Jean-Michel.
Wunderbar. Bienvenue dans la Matrice! Bienvenue dans Matrix, un film de 1999 des sœurs Wachowski. Thomas Anderson, un jeune informaticien connu chez les hackers sous le pseudo de Neo, reçoit des cookies sur son ordi parce qu'il pense, être un groupe de pirates informatiques. Ils lui font découvrir que le monde dans lequel il vit n'est qu'un monde virtuel appelé la Matrice. Les humains sont gardés inconscients sous le contrôle de capsules, toute leur vie branchées par des tuyaux, et servent de piles pour alimenter la matrice en énergie. Morpheus, le capitaine du Nabucodonosor, contacte Neo. Il pense qu'il est l'élu. Le Messie, quoi. Non, pas Lionel, quoi. Le Messie. Qui peut libérer les humains des machines et prendre le contrôle de la matrice. Une fois libéré de la matrice, Neo, affûté comme un opinel, veut tout niquer. Avant de tout niquer, ils ont rencard avec l'oracle. Elle guide les hommes dans la matrice en faisant des prédictions. Elle dit à Neo, par exemple, que c'est soit lui ou soit Morpheus qui va canner rapidement dans les prochaines heures. Cipher, c'est pas son prénom, c'est pas Lu, quoique Lucifer, bon. Un membre de l'équipage du Nabucodonosor balance Morpheus aux agents, les gardiens de la matrice. Le Judas, la Poucave. Neo décide d'aller les bourpiffer pour sauver Morpheus, quoi. Il se prend 5 bastos dans le buffet et s'écroule raide. Mais par miracle, il se réveille. Explose l'agent Smith et ses collègues et rentre dans le système informatique de la Matrice. Il est l'élu, le Messie. Invincible, il promet de changer le système et disparaît dans les airs. Ça ressemble furieusement au Premier Testament, non ?
Du hast mich.
C'était Du Hast de Rammstein. Des groupes comme The Prodigy, Marilyn Manson, Rob Zombie, Rage Against the Machine, entre autres, ont participé à la bande-son de Matrix. Bisous, merci, bisous. C'est à toi Lydia maintenant.
Bonjour tout le monde. Bonjour. J'ai longuement hésité à aborder le sujet de l'affaire des viols de Mazan. Notamment parce qu'on en parle tous les jours, jusqu'à l'international. Le monde entier nous regarde. Mais voilà, je pense qu'il faut en parler, surtout parce que la victime elle-même le veut. Ce qui m'a tout d'abord frappé, en dehors de l'abjection des faits décrits, c'est le nombre de titres qui nous parlent de Monsieur Tout-le-Monde, de bon père de famille. Mais ce n'est pas vraiment une surprise. On le sait depuis toujours qu'un violeur est majoritairement un homme qui a l'apparence de Monsieur Tout-le-Monde. Ça serait facile si on pouvait le reconnaître, s'il avait une face monstrueuse. Mais non, son profil, leurs profils n'ont rien d'inhabituel. 91% des violeurs connaissent leurs victimes. 49% des viols sont le fait du conjoint ou de l'ex-conjoint. Il y a environ 40 interventions de la police par heure en France pour des cas de violence intrafamiliale. Et c'est le père qui est souvent au cœur de ces violences. Il y a environ 122 femmes qui sont tuées tous les ans, par an, donc, par leur compagnon ou ex-compagnon. Et ces chiffres ne bougent pas tellement depuis 10 ans. En 2022, les tentatives d'homicide au sein du couple ont fortement augmenté. Et on nous parle de bons pères de famille. Oui, nous sommes bien dans une société où le patriarcat a encore sa place et où le féminisme a encore du boulot. Et pour ceux qui en doutent, il suffit d'écouter les accusés ou leur défense. C'est édifiant. Écoutez-les.
Ben, c'était pas vraiment un viol, monsieur le juge, vu que le mari, ben, il était OK, quoi.
Sous-entendu, le mari a pouvoir absolu sur son épouse. Madame, depuis 1965, peut gérer ses biens, ouvrir un compte en banque, exercer une profession sans l'autorisation de son mari, mais apparemment toujours pas disposer de son corps, selon certains. Un autre prétend que s'il avait voulu violer quelqu'un, il aurait choisi une jeune et belle femme. Limite, il a été bien généreux de l'honorer. On est allé jusqu'à reprocher à Gisèle Pellicot d'avoir été dans un camp naturiste. Sous-entendu, elle serait peut-être bien exhibitionniste. Et du coup, ça justifierait de la droguer et de la violer ? Je sais pas, je demande. Parce qu'il faudrait peut-être prévenir les dames qui pratiquent le naturisme que cela pourrait se retourner contre elle. Je sais. Les avocats font leur boulot et défendent leurs clients. Tout de même, cela ressemble furieusement aux arguments fallacieux tels que...
Elle était en jupe, monsieur le juge. En jupe, je vous dis. J'ai pas pu m'en empêcher.
Nous avons un avocat de la défense qui a oublié son droit et qui nous redéfinit le viol.
Ben, il y a viol et viol. Hein.
Et quel serait ce viol qui n'en est pas un ? Tout dépendrait soi-disant de l'intention. Ainsi, certains accusés reconnaissent avoir violé Madame Pellicot, mais ce n'était pas leur intention. Eux aussi seraient des victimes du mari de Madame. Il semblerait donc que si l'accusé n'a pas conscience de violer, ce n'est pas un viol.
Parce que vu que madame n'a pas protesté, et pour cause, difficile de dire non si on est dans un quasi-coma, bah c'est pas vraiment un viol, hein.
Et puis zut, à la fin, monsieur le juge, il y avait consentement implicite, vu que le mari était là.
Bah, c'est pratique pour les violeurs, ça, s'ils définissent eux-mêmes ce qu'est un viol.
Bah, monsieur le juge, elle était bourrée, déjà. Elle avait pas à boire, hein. Et je peux pas deviner qu'elle voulait pas, quoi.
Pourtant, à défaut de bon sens, la loi est claire. Le viol est un acte de pénétration commis par contrainte, violence, menace ou surprise. La surprise sera caractérisée, par exemple, si la victime est inconsciente, en état d'alcoolémie ou endormie. Quant à ceux qui prétendent être persuadés que Gisèle Pellicot faisait semblant de dormir, les images leur donnent tort. Quand les enquêteurs ont découvert les vidéos faites par Dominique Pellicot, ils ont tout de suite compris que Gisèle était complètement droguée et absolument dans l'incapacité de donner son consentement à quoi que ce soit. J'aimerais rappeler que le devoir conjugal n'existe pas en France. En effet, cette notion n'a aucune base légale, que ce soit dans notre code civil ou notre code pénal. Mais le viol conjugal, lui, existe. Pourtant, un sondage Ipsos datant de 2021 révèle que près d'un Français sur cinq ne considère pas le fait de forcer son conjoint à avoir un rapport sexuel comme un viol. Ce que nous dit ou nous rappelle ce procès, c'est que dans notre société, certains considèrent que le corps des femmes ne leur appartient pas tout à fait. Comment peut-on aujourd'hui encore ne pas considérer le viol conjugal comme un viol ? Mais autant ce chiffre de 1 Français sur 5 m'afflige, autant j'ai envie d'être optimiste et de me dire qu'il y en a 4 au moins qui considèrent un viol conjugal comme un viol. Oui, il y a encore du travail. Pas forcément autour de la loi, puisque la femme n'est légalement plus sous la tutelle de son mari. C'est dans l'inconscient qu'il faut changer, dans nos rapports aux uns et aux autres, sans les hashtags « not all men », sous-entendu « pas tous les hommes sont des violeurs », ni le hashtag « all men », « tous les hommes sont des violeurs », qui ne font que nous diviser. Je n'ai pas envie de considérer la moitié de l'humanité comme mon ennemi. Mais on doit cesser le déni et reconnaître. Oui, le sexisme existe en France. Oui, on objectivise facilement le corps de la femme, notamment dans les publicités. Oui, une femme sur deux a été victime de harcèlement sexuel et ou d'agression sexuelle au moins une fois dans sa vie. Nous devons nous interroger ensemble sur ce qu'on doit faire pour que cela change. Il nous faut reconnaître collectivement qu'une certaine culture du viol persiste dans nos sociétés. Regardez comme on renverse facilement la culpabilité des violeurs vers les victimes.
Oh là là, la victime l'a peut-être cherchée. Hein. Voilà, elle sort seule le soir, elle s'attend à quoi ? Elle a bu ? Et sa jupe, mais courte, mais trop courte.
Non, je n'ai pas envie de considérer tous les hommes comme des potentiels violeurs. Mais je ne peux pas non plus m'empêcher de constater que les violences conjugales ou sexuelles sont majoritairement le fait des hommes. Et que l'on doit repenser les rapports entre les hommes et les femmes. Et pour une fois, avec ce procès, il n'y a pas que les féministes qui ont pris la parole. Mais les hommes aussi se sont exprimés. L'essayiste Morgane Lucas interroge les hommes, tous les hommes, pour qui le procès Pellicot est un point de bascule. Il leur demande
« Où en sommes-nous après 7 ans du début du mouvement MeToo ? Qu'avons-nous appris ? Comment nous sommes-nous positionnés ? Où sommes-nous lorsque nos potes, nos collègues, nos frères ont des comportements ou des propos sexistes ? Où sommes-nous lorsque les femmes sont agressées ? Sans doute occupées à questionner la crédibilité de la victime ? Tout en affirmant que pas tous les hommes, encore moins nous.
Il propose 10 points pour en finir avec les Boys Club. Plus de 200 personnalités masculines s'engagent, dont Eddie Depreto, Walidia, Gaël Fay, Guillaume Meurice. Alors, chères auditrices et auditeurs, je vous invite à aller regarder ces 10 points. Oui, peut-être ce procès va permettre un changement. Il faut que ça change. Change d'Anony and the Junctions. Et maintenant, une petite question collective pour tout le monde.
Petite devinette.
Ce serait plutôt c'est d'où vient l'expression porter la culotte?
Ah.
Porter la culotte.
C'est que les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon. Et que si elles en portaient...
Putain, moi, je préfère rien dire. Je sens qu'on va avoir des problèmes.
Ça voulait dire qu'elles montaient à cheval.
La Révolution française, il y avait les sans-culottes. Je sais, il y avait les sans-culottes.
Ouais.
Mais il n'y avait pas avec les culottes. Il y avait...
Alors...
Ouais.
C'était déjà bien avant la Révolution française. Les gueux, les pauvres, ils ne portaient pas les mêmes culottes que les aristocrates. Les espèces de pantalons un peu comme les pantalons de golf dans Tintin.
Ah oui, bouffant sur les bas. Côtés.
Ouais.
D'accord.
Ça, c'était les riches qui portaient ça. Les pauvres, ils avaient des espèces de pantalons longs, en fait. Mm-hmm. On appelait ça les culottes pour les aristocrates. Et effectivement, pendant la Révolution, les révolutionnaires s'appelaient
bravo,
les sans-culottes. Et évidemment, ça s'est transformé pour les femmes.
Okay.
Dès qu'elles sont un peu autoritaires, soi-disant, on dit qu'elles portent la culotte dans un ménage. Sous-entendu, c'est elles qui ont le pouvoir.
Et c'est elles qui portent le pantalon des aristocrates.
En gros, c'est ça. C'est toujours une question de pouvoir. Le truc, c'est que si vous faites gaffe, on ne dit jamais des hommes dans ces couples.
Ouais.
Si leur femme porte la culotte, pourquoi on ne dirait pas dans ce couple, c'est l'homme qui porte le soutien-gorge ou les jartelles.
Ouais, c'est vrai.
Ou le string.
C'est vrai.
Ou le string, c'est l'homme qui porte la ficelle. Voilà. Mais ouais, c'est bien la révolution.
Ok, merci Lydia.
Vraie petite news d'après Tinder, TikTok, Facebook, enfin tous les réseaux sociaux caniveaux, Chuck Norris sait faire du feu avec une loupe, en plus la nuit.
C'était Faites valser vos idées. Merci à Max, merci à Mélanie, à Lana, à Lydia, à Jean-Pierre. Et merci à moi-même. Bisous à toute la famille. Et merci à Antoine pour la réalisation. À bientôt. Merci. Bisous.
Merci. Ciao. Merci. Bisous.